c'est sympa. Il y en a beaucoup. L'intérêt de l'incendie, très clairement, c'est que ça permet d'avoir des contre-jours et des silhouettes qui se détachent. Parfois, ça modèle totalement avec des très beaux dégradés. Et au contraire, parfois, vous avez des silhouettes qui se détachent presque en aplat. Alors, vous avez toujours Aimé et Anchise qui sont en train de fuir. Alors, assez souvent, vous avez vu que les gens qui échappent à la catastrophe viennent vers nous, mais c'est sombre. On ne sait pas très bien où ils vont. Donc, au lieu d'aller vers un lointain, vers un horizon, qui normalement aurait pu être le rapport avec le ciel, ils fuient vers nous, mais très fragiles. Comme si c'était à nous de les accueillir. Et ça, on pourrait aussi gloser un peu là-dessus. Alors, cette perte, cette inquiétude, cette solitude, est également... Parce que là, c'est trois, mais à la fin. C'est justement où aîné quitte, essaie de sauver son père, donc on a encore une fuite individuelle. Le thème des martyrs aussi, qu'on trouve souvent, c'est un peu la même chose. C'est que les martyrs sont seuls dans la mort. Enfin, où ils sont, ils sont martyrisés. Saint Jean-Baptiste, Jésus, Sainte Catherine, vous avez toujours cette idée de la martyrologie. Alors la martyrologie, c'est aussi typique du XVIIe siècle, d'abord parce qu'il y a eu beaucoup de martyrs, d'abord victimes des guerres de religion, entre eux. Vous avez aussi les... comment on appelle ça? Ceux qui sont allés en... Ceux qui se vont dans les lointains pays évangélisés, entre guillemets, les missionnaires qui sont effectivement souvent martyrisés. Certains vont martyriser, notamment en Amérique latine, mais vous avez également ceux qui vont partir en Chine, au Japon, etc., qui avec des vécus assez hallucinants et qui sont des véritables aventures. Donc vous avez aussi un monde qui s'ouvre, un monde aussi qui est très complexe, parce que ça c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais qu'on peut aborder avec ça dans l'idée du monde qui s'ouvre. 1492, découverte du Nouveau Monde, ok, ça c'est le 15e. 16e, c'est un début de mise en place, mais alors le 17e, le monde s'ouvre réellement. C'est cette période où les jésuites vont au Japon. C'est la période de construction, effectivement, d'établissements délibérés en Amérique latine. Vous avez aussi tout ce qui est l'Inde, l'Afrique subsaharienne. Vous avez toutes ces contrées extrêmement vastes, donc le monde est extrêmement ouvert. Et même tellement ouvert qu'il faut se le partager, il faut se le répartir. Et vous avez là un monde là aussi qui est ouvert, dangereux, complexe, et dans lequel aussi vous avez la confrontation avec plein de religions. Donc non seulement la religion chrétienne, qui est normalement, parce que 1492, théoriquement, Christophe Colomb devait, sa mission, c'était de convertir les derniers sauvages, pour que le monde entier soit chrétien. Puis c'est pas ça qui se passe, et puis tout s'écroule, etc. Donc, si vous voulez, le projet est totalement raté. Et en plus, le christianisme est séparé en deux. Puis, vous avez les orthodoxes, puis vous avez les musulmans, puis vous avez les hindous, puis vous avez les asiatiques, puis vous avez les indiens d'Amérique, etc. Donc, vous avez un éclatement aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez clair dans un monde totalement ouvert. Donc, non seulement le cosmos, mais y compris la Terre elle-même. Donc, voilà. Alors, ça n'a pas... J'ai pas vu de titre à celle-ci, mais on a quelque chose qui évoque plus une guerre justement civile. Hein. On reconnaîtrait presque les costumes de soldats contemporains. Et là, c'est par exemple la Saint-Barthélemy, hein, c'est un peu avant, mais c'est des milliers de gens jetés dans la Seine, éventrés en pleine nuit. Hein, avec, on a toujours des ambiances un petit peu comme ça de catastrophe, des échos de ces drames-là. Le détail aussi, regardez au niveau architectural, hein, des briques, hein, en appareil en quinconce et en réticulé, comme on dit, typique de Rome. Donc il y a aussi des choses qui donnent un effet de réel. Parfois il y a un côté fantastique et puis des effets de réel. Où est ma petite flèche? Là, voilà. Alors ça c'est Bélisaire reconnu par ses soldats. Alors ça c'est sans doute de Didier Barras. Quand on accroche un peu, c'est plus ordonné, plus structuré, etc. Souvent avec des morceaux de bravoure en perspective. Hein. Et là aussi, c'est foncer une légende, le vieux soldat romain reconnu par ses soldats qui avait un peu abandonné la guerre. Je crois que c'est ça qui n'est plus battu. Celui-là était au musée d'Orléans. Donc là encore, tout à fait dans les genres. Alors vous voyez que c'est presque obsessionnel. On a quasiment un travail de série qui se fait à deux. Comme si il voulait épuiser une sorte d'inquiétude personnelle en se renforçant aussi pour justifier ces images fantastiques. c'est assez étonnant. Et d'ailleurs, je crois que ça n'a jamais été exposé ensemble. Là, moi, en fouillant, j'ai réussi à trouver tout ça, mais c'est pas évident. Ça de Didier Barra, un très beau paysage, cette fois-ci sans vraiment de sujet, avec au centre une colonne vide, ça c'est bien ce qu'on dit. Alors, ce qui est intéressant aussi, quand on regarde presque à poil ces œuvres, c'est qu'il n'y a jamais véritablement de choses qui tiennent totalement. Soit on est devant une ruine, qui au premier plan, etc., soit on est devant des bâtiments qui sont fantomatiques, qui semblent effectivement avoir perdu leur texture, et dans lesquels on voit quasiment jamais de personne, c'est-à-dire qu'ils n'abritent rien, alors que c'est leur fonction théorique. Alors ça, c'est dit de François de Nomier avec ses colonnes vides et les grandes ruines. Évidemment, quand on passe à Rome, ça fait rêver, mais ça aussi, ça va être... Alors ça, vous avez vu, c'est un peu grossier, c'est sans doute Nomier, mais c'est tout petit, ça. Celle-ci, on l'a vue. Ça, alors, vous avez quand même, alors là, ça va être intéressant, vous avez quand même des véritables vues, de véritables paysages. Et là, c'est une vue de Metz. Alors n'oublions pas qu'ils sont tous les deux originaires de la ville de Metz. Bon, pourquoi ? C'est un peu mystérieux, hein, parce que très longtemps, la vie de ces deux artistes était confuse. Moi, j'ai trouvé presque par hasard les deux noms, Nomé et Desiderio, et Barra. Et je vous dis, pendant longtemps, on croyait que c'était trois personnes différentes, une personne, ou deux, ou que là, il avait deux noms, que Nomé et Barra, c'était le même. Etc. Etc. Donc, non, maintenant, c'est assez clairement que c'est deux personnages et qu'ils ont délibérément, pendant un moment, on a cru que c'était le nom de Desiderio, c'était une invention postérieure qui avait donné ce nom à ces artistes-là. Mais apparemment, c'est eux-mêmes qui ont choisi de signer de ce nom-là. Donc, c'est aussi une histoire un peu étonnante. C'est des premiers travaux de collaboration réelle dans lesquels les deux artistes travaillent. Alors, ils ont en point commun Metz, et là, vous avez justement, enfin, peut-être, une ville présentée avec presque de façon topographique. On a une image de ce que pouvait être Metz. Vous avez quand même un calvaire ici, c'est que Metz, une sorte de nouvelle Jérusalem. Alors, pourquoi, comment ça va ? Avec ici, les femmes qui vont au calvaire, qui sont ici, donc... une actualisation du drame religieux, et puis un paysage remarquable, et là vous avez du bleu, et des collines, alors je ne sais pas, mais c'est des collines devant Metz.
Il y aurait une grande main, une vache.
Ah oui, la main de Dieu, oui. Alors,
la pierre, le couillon de la pierre ressemble à la pierre de jaune.
Alors peut-être qu'il y a aussi des...
J'ai reconnu un peu la...
Ah d'accord, donc dans les peintures précédentes, il y a peut-être aussi des souvenirs de ces couleurs. Oui, ces couleurs d'ocre comme ça, qu'ils projettent.
Il est où ce tableau ?
Alors... Mais là, quand je réussis à trouver le titre,
ah oui, d'accord,
c'est bien. Quand je réussis à trouver, savoir si c'est Nomé ou Barra, c'est bien. Et alors le lieu, mais je suis obligé d'ouvrir plusieurs sites pour essayer de trouver le lieu des œuvres. Donc pour Vermeer, je fouille, parce que vous avez des gens, moi ça m'arrive, ils mettent des reproductions.
Oui, sans...
On ne dit pas où ils sont. Et même sur Wikimedia, qui est assez bien fait, vous avez souvent une peinture, vous ne trouvez pas toujours le lieu où l'œuvre est exposée. Donc c'est assez compliqué de savoir vraiment où c'est. Donc aller à chasse au Barra, c'est pas mal. En fait. Alors je pense qu'il y en a à Metz. Je me demande si certaines ne sont pas effectivement soit à Nancy, soit à Metz. S'ils ne se disputent pas.
Ah oui, sûrement.
Alors là, vous avez une vue de Naples. Alors là, il y a quelques vues de Naples. Qui sont intéressantes aussi, parce qu'on voit quand même que ce sont des artistes qui ont cette part d'imaginaire. Dans leur imaginaire, il y a des créations réelles, mais dans leur vision du monde réel, il y a une part aussi de fantastique. Que ce soit les nuages, que ce soit les lumières, etc. Donc, en fait, le passage se fait très clairement. Et évidemment, c'est totalement subjectif, le port de Naples, comme ça. Et vous voyez toujours les mêmes couleurs, ici, de façon très claire. Le noir, le blanc, le jaune, le rouge, avec les voiles, etc., c'est assez évident. Alors ça, c'est vu de Naples, vu de la mer. Alors, il y en a qui sont vraiment les mecs, qui sont pas du tout. Alors ça, Saint-Pierre de Rome, quand même, ils sont passés à Rome. Donc là, vous avez, assez avant, c'est juste avant là, c'est intéressant parce que la colonnade du Bernin est faite juste après, quasiment le 17e siècle aussi. Donc on a une vue de Saint-Germain avant la grande colonnade de Bernin. Et alors là, pour Rome, c'est peut-être une des seules où il n'y a pas de vision dramatique, comme si les choses là étaient bien en place, la Carmanie. Ça reste un repère. Il y a la coupole, il y a l'obélisque, il y a une architecture, tout est bien ordonné. La foule n'a pas l'air paniquée, et même elle a l'air d'être parfaitement ordonnée, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de violence. Là, on est dans un équilibre souhaité, peut-être, alors que même à Metz, avec un des nuages, une menace qui vient d'en haut, à Naples, c'est une menace qui vient de la mer, mais Rome, au contraire, on a une sorte de point d'accroche. Ce n'est pas non plus un hasard, certainement. Alors, j'attends. Là, vous allez voir des... Alors, Venise. Vous avez des vues extraordinaires de Venise, qui sont
assez faites... optimistes.
Alors voilà, Venise, mais le ciel est très sombre. Le ciel est très sombre. Alors d'ailleurs, c'est inspiré de Venise, parce que si vous avez... le palais des Doges ne ressemble pas du tout à ça, et la basilique Saint-Marc, on transforme la basilique Saint-Marc en une basilique baroque, alors qu'on a la tour de l'horloge, on a le campanile, et le palais des Doges n'a rien à voir avec ça. Bizarrement, d'ailleurs, la perspective est un petit peu fausse. Par contre, c'est... là où c'est pas mal, c'est que Venise a quelque chose de l'ordre du rêve et du fantastique, de toute façon. Donc, si vous voulez, la vision de Venise, elle est forcément quelque part toujours fantastique, avec les gondoles. Et on trouve les mêmes couleurs. Et là, comme s'il trouvait le palais des Doges un peu jaune, la tour, le campanile est assez rouge, et puis le noir et blanc, effectivement, avec ici un ciel, etc. Donc, mais là, vous avez une place, voilà, c'est quand même très ordonné, très lumineux. Venise et Rome, comme des sortes de valeurs sûres. Alors, Venise, on va le voir souvent. Celle-ci, c'est toujours pareil. Alors, ce que je trouve très étonnant, c'est que les bâtiments de gauche, là, la bibliothèque, et puis le campanile sont justes. Deux colonnes aussi. La tour de l'horloge aussi, en face, est juste. Mais. La coupole de la basilique et le palais des Doges sont faux.
Mais il y a les chevaux, non?
Oui, il y a les chevaux, ils sont là. Ils sont là. Mais ce n'est pas du tout les dômes de la reste.
Mais ça change en plus.
Est-ce qu'ils ont été reconstruits? Je ne crois pas, parce que les voûtes de Venise, de Saint-Marc, ont été... Et le palais des Doges est beaucoup plus ancien, il n'a jamais bougé. Alors, si, il y a cette façade-là, mais les arcades ne sont pas du tout comme ça, et les colonnades non plus. Donc c'est sans doute un travail de reconstitution d'atelier après une prise de notes ou des choses comme ça. Il n'y a pas de photos, donc on peut imaginer qu'ils sont passés par là. Et il y a la grande, sans doute le Bucentaure, la grande galère ici du Doge. Celle-ci semble un peu plus juste. Alors vous avez vu, il y a beaucoup qui sont marqués. Alors c'est sans doute des commandes. Un ciel menaçant, il y a encore toujours les mêmes couleurs. Et là, un brouillement magnifique. Alors Venise, c'est vraiment aussi... grand port, une ouverture aussi vers l'Orient, ça, c'est... il y a une part de rêve d'abord, la ville elle-même, ce qu'elle représente au niveau économique, architectural. Alors là, regardez le génie quand même de ces artistes, la lumière qui réussit à faire presque le campanile devient presque fantomatique, le rouge. Il y a aussi, c'est assez étrange dans la peinture, c'est des parts d'inachevé, il y a des choses qui sont extrêmement précises, et puis comme s'il y avait des taches ou des choses qui sont non dites, des vides, des choses... presque abandonné ou non fini, une sorte de liberté, de fantaisie, qui est aussi très moderne, qui nous semble très moderne. Ça, ça c'est avec en même temps une composition remarquable. C'est-à-dire que si on regarde bien les équilibres de masse, de couleurs, sont parfaitement réussis et très dosés. Avec aussi des effets de déconstruction, on peut dire, du réel, et le reflet. Le bateau, justement, qui semble, dans lequel vous avez les nuages aussi, les reflets du ciel. Donc là aussi, des moments où on perd le repère, par exemple dans le reflet. Alors ceux-ci sont vraiment très réussis. Et là encore, ça s'est inspiré de Venise, c'est une place, mais une fantaisie. Alors attendez, je me demande si c'est pas en France. Je crois qu'il y avait une petite signe. Non. Donc, vous avez vu comment il dit en anglais, c'est François de Nommé, Col Monsou Desiderio. Donc, parfois c'est lui, parfois c'est les deux, etc. Alors là, on est un petit peu dans toujours. Alors, inspirés par leur version du Polynésie, etc. Alors, peintre des villes, alors ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est intéressant, c'est peintre des villes. En peintre des villes, on n'a pas vu beaucoup de rues jusqu'à présent. On voit des temples, on voit des églises dans la peinture, on voit des bâtiments comme ça, mais des rues avec les lumières traversant comme ça, l'orthogonalité, la construction comme ça d'une sorte de un paysage minéral, ça c'est assez original chez eux. Qu'ils soient en ville ou pas, vous avez un paysage minéral, pas un paysage naturel, et qui est pictural aussi. Hein, on peut peindre. Alors ça, c'est sans doute, ça c'est attribué donc à nommé Barra, etc. Donc, ou alors, on voit qu'ils ont une petite influence, mais ce que je vous montrais avant, c'est qu'en fait, ils ne venaient pas de nulle part. C'est qu'il y avait aussi pas mal d'artistes allemands qui avaient anticipé ça. Vraisemblablement, là, hein, on est dans quelque chose, soit de nommé Barra dans leur jeunesse, soit effectivement...
Est-ce qu'on est arrivé à vraiment attribuer avec précision les œuvres des uns et des autres, ou bien il y a encore des doutes?
Je crois que le corpus, comme on dit, d'abord, les œuvres, elles sont un peu partout. Elles ne sont pas toujours signées, et il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de grand spécialiste de ça, parce que c'est des peintres un petit peu étranges et mineurs. Peut-être que je ferai offense à quelqu'un qui se serait vraiment penché là-dessus, mais c'est ce que je disais. En général, Barra, c'est plus précis, et nommé, c'est plus fantastique. Ça, par exemple, je crois que c'est plutôt Barra. Alors, magnifique, hein, structure d'une église. Alors, c'est aussi drôle de voir comment ce sont des artistes qui réfléchissent à ce que doit être une église, ou ce que pourrait être une église, au moment où, justement, l'architecture même des églises est questionnée. Les protestants vident systématiquement les églises, et les catholiques baroques les remplissent à tout prix d'une multitude de choses pour les rendre fantastiques, exceptionnelles. Ils vont dans l'excès, le débordement. Et là, vous avez des gens qui se questionnent vraiment sur l'architecture. Que doit être l'architecture? Donc, pas uniquement dans la représentation, mais même, qu'est-ce que ça peut être, hein. Et une sorte de mélancolie sur... Ce paysage totalement artificiel, puisque c'est un paysage de pierre, construit par les humains, qui en même temps permet de construire des lumières, construire des espaces extraordinaires. Donc il y a une sorte de nostalgie des belles audaces architecturales. Hein. Il y a quelque chose qui se perd, parce que, d'abord, en plus, si vous regardez les églises baroques, souvent de l'extérieur, c'est un peu des boîtes, c'est surtout à l'intérieur qu'elles sont intéressantes. Et puis les protestants, ils vont faire des temples très austères, et puis les églises, ils vont les vider. Donc il y a comme une sorte de nostalgie aussi, presque du gothique, hein, des cathédrales, où là, il y avait encore un esprit positif. Hein. Ça, c'est assez clair. Là, ça donne une structure absolument remarquable. Là encore, ça, je crois que c'est Barra. Hein. Toutes celles-ci, c'est Barra. Attendez, je vérifie. C'est nommé. Donc, j'ai tout faux. C'est nommé, donc vous voyez les attributions. Superbe de modeler des gravures. Mais c'est rêvé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune église comme ça. Il n'y a aucune église comme ça qui combine à la fois des pilastres baroques, des arcs romans et un cœur gothique. Et vous avez aussi là une sorte de nostalgie de la grandeur. Là encore, donc il y en a beaucoup. Alors ça, c'est drôle de faire une peinture dont le sujet, c'est l'architecture. Et l'architecture, souvent presque vide, il n'y a quasiment plus de personne. Là aussi, elles sont un peu désertées. Il n'y a pas de messe, il n'y a plus de curé, c'est presque des églises pour rêver. Là aussi, puis rêver à qui, rêver à quoi? On ne sait pas très bien. Est-ce qu'on rêve à la lumière? Est-ce qu'on rêve aux statues? Est-ce qu'il faut s'en aller? Est-ce qu'il faut rester là? Vous avez aussi un questionnement pictural qui est remarquable, si je reviens ici, notamment pour celle-ci. C'est l'idée de la surface et de la profondeur. Parce que vous avez une affirmation du plan qui est remarquable, frontale, avec des rythmes et des travées. Orthogonalité ici vraiment sur la surface des abois, et puis vous avez des percées qui sont en plus qui ne communiquent pas entre elles, comme s'il y avait plusieurs entrées, hein, à droite, gauche et même latérales, avec une orthogonalité, donc construction d'un espace ici remarquable, picturalement parlant. Là encore, alors là c'est plus classique et moins lyrique. Hein. Avec le damier, donc on peut imaginer que c'est une peinture plus ancienne, mais c'est quand même imaginaire. Ça ne correspond à aucun espace pas beaucoup, excuse-moi, pas beaucoup de croix.
Ah ben non, parce que c'est là manifeste. Où on s'échappe un petit peu justement du religieux, des cléricaux, on va dire, qu'ils soient protestants ou catholiques, pour aller peut-être dans quelque chose de plus métaphysique. Hein. Ça, c'est assez clair que chez eux, on n'est pas du tout dans le... D'ailleurs, les scènes religieuses sont relatives quand elles sont juste citées, mais ce n'est pas du tout central. Et en général, vous avez raison, dans ces bâtiments, on voit quasiment aucun prêtre, hein, quel qu'il soit. Donc c'est aussi, alors ça c'est quelque chose qu'on peut trouver qui a une influence de certaines religions, de certaines visions théologiques du XVIIe siècle, c'est la question aussi de la grâce, un petit peu. Chez les protestants, il n'y a pas d'intermédiaire. Chez les gens comme Augustin ou chez les jansénistes, c'est un rapport direct à Dieu aussi. Il y a cette idée aussi que, voilà, c'est un peu, on est tout seul aussi, devant Dieu. Et donc cette idée, c'est qu'il n'y a pas non plus... Donc, par contre, l'Église reste quand même un lieu privilégié, mais l'idée des rituels, l'idée de tout ça. Ça, c'est pas mal non plus, hein, comme vision. Alors là, encore des églises, il y en a plein, alors je ne sais pas où elles sont. Là, toujours des places imaginaires. Là, alors là, on est vraiment dans du baroque, puisque vous avez le roi qui s'agenouille, effectivement. Alors là, c'est drôle, parce que vous avez une vraie citation d'un art qui lui est contemporain. La torsade du baldaquin de Saint-Pierre, que l'on retrouve ici, c'est des colonnes torsadées, c'est totalement contemporain de Desiderio. Je dis Desiderio. Hein, puisque, donc, vous avez, donc, c'est quelqu'un qui fait référence quand même au passé, aux ruines, aux fantastiques, etc. Mais si on regarde bien, il n'y a pas beaucoup de détails, il s'inscrit dans son actualité. Que ce soit Venise, que ce soit Rome, que ce soit Naples, ou même plein de citations de certaines architectures baroques, c'est très contemporain. Donc c'est marrant aussi de voir ce clin d'œil qu'il fait à son actualité. Et ça, c'est une des seules extérieures. C'est une des seules extérieures assez étranges, une sorte d'église, de grue, on ne sait pas ce que c'est, construction avec une vision extérieure. Et ça, c'est Didier Barra. Mais c'est vraisemblablement une œuvre de jeunesse. Alors, alors maintenant, je vous ai montré, alors, j'en ai montré un peu beaucoup, parce que j'étais tellement content d'en trouver, que j'en ai mis pas mal, pour avoir une vision aussi un petit peu. Vous voyez que c'est un corpus qui est assez très homogène. Très homogène, quelques variations, et qui est assez riche. Ce qui, une fois qu'on a ça, ça permet de revoir certains artistes antérieurs, parfois, ou postérieurs, et de voir qu'en fait, ils ne sont pas tout seuls non plus. Si Barra et Nommé se mettent ensemble, en fait, il correspond aussi à un courant artistique mineur, mais qui est présent chez pas mal d'artistes. Hein. Par exemple, Gréco, qui est plus ancien. Gréco, donc, crétois, qui arrive à Venise, et qui, de Venise, arrive en Espagne. L'Espagne de la Reconquête, etc. Gréco, c'est quelqu'un qui déconstruit systématiquement l'architecture. Il défait, et quand il arrive en Espagne, effectivement, là, c'est quelqu'un qui, justement, va détruire au bénéfice d'une sorte de mysticisme qui va traduire par des lumières incohérentes. Une des premières œuvres de Gréco, alors Gréco d'ailleurs venait de la tradition byzantine, c'était crétois, dans laquelle l'architecture dans la peinture n'a aucune importance, parce que ce sont des fonds dorés. Donc on est dans une peinture qui est totalement irrationnelle. Quand il arrive à Venise, la seule chose qui l'intéresse, c'est justement l'irrationalité ou les excès de Tintoret ou de Titien. Et Gréco aussi, je ne sais pas si vous avez raconté ça, c'est quelqu'un qui est tellement persuadé qu'il apporte un art nouveau que quand il voit le jugement dernier de Michel-Ange, il arrive à Rome, le jugement dernier de Michel-Ange qui faisait scandale en 1540 à peu près, il est fini, 1540, donc là on est au XVIe siècle. Hein. Et Gréco dit, mais moi s'il vous gêne le jugement dernier, moi je repeins. Hein, donc Gréco pensait qu'il pouvait, et ça venait à peine d'être peint, mais Gréco dit, moi je le repeins. Et on pense que c'est peut-être ça qui a fait qu'on lui dit, écoute, petit gars, t'es bien, mais on va voir en Espagne, peut-être que là, il est bon, parce que là-bas, la peinture, ils connaissent pas bien. C'est pas la tradition, ils ont besoin de fous furieux pour la reconquête contre l'islam. Donc Gréco arrive effectivement dans l'Espagne de la reconquête, où il n'y a pas de tradition picturale chrétienne, très peu. Hein, et donc, il va donner libre cours à cette espèce de mysticisme un peu incandescent, que l'on voit déjà ici, où d'ailleurs les corps sont déformés,
les lumières sont totalement improbables, et ça, c'est assez clair. Alors, vous voyez, regardez les peintures de Gréco ici, vous retrouvez cette espèce de lumière incohérente, des lumières d'incendie, des éclaboussures de blanc, des couleurs comme ça, et des espaces un peu fantastiques. On ne sait pas si ce sont des grottes, des gueules, des bouches, des dents, on ne sait pas très bien où on est. C'est assez proche, en fait. C'est assez proche, mais c'est plus ancien. C'est ça, presque 100 ans avant Desidereux et Barre. Hein. Donc, en fait, il y a quelque chose aussi, mais... Gréco travaillait dans un monde en crise. C'est-à-dire que la peinture de Gréco, elle a été acceptée dans l'Espagne de la Reconquête, dans l'Espagne des violences religieuses, dans l'Espagne contre les Juifs, contre les musulmans, contre les hérétiques, entre guillemets, quels qu'ils soient, catholiques, etc. La violence de l'Espagne aussi contre les peuples colonisés. Donc vous avez ici une expression d'une religion qui n'est pas du tout rationnelle. Et là, regardez l'adoration ici des bergers. Vous avez aussi des lumières improbables, une architecture qui se défait, une verticalité, on n'est pas du tout dans la description d'un paysage harmonieux, sage, etc. Donc Gréco, c'est au tout début du XVIIe siècle, on est quand même, en fait, quand je dis 100 ans, je suis bête, on est quelques dizaines d'années avant, quand même, Desiderio et Barra, mais vous voyez que ça correspond aussi à une crise de la représentation, mais parce qu'on est dans des mondes profondément en crise. Et là, l'anatomie aussi, comme on a vu tout à l'heure que l'anatomie et les corps humains étaient souvent un peu déformés, là vous avez très bien aussi que Gréco, il va être alors, il est très juste au niveau de la musculature, hein, mais les proportions des corps sont très souvent disproportionnées, allongées. Autre chose, il y a chez Gréco aussi des points qui sont un peu communs, c'est parfois une très grande précision, puis parfois... des taches de couleurs, des choses comme ça qui ont l'air totalement libres, des constructions qui sont aussi totalement libres et décentrées. Ça, c'est fou. Moi, quand j'étais plus jeune, je détestais Gréco. Je me souviens d'avoir galopé devant les Gréco, j'avais 17 ou 18 ans à Madrid, en disant waouh, ouais, c'est quoi ces bandieuseries, etc. Et puis, plusieurs années après, je suis revenu voir, j'ai dit waouh, c'était une des plus belles peintures que j'avais vues dans le geste, dans la matière, dans la lumière, etc. On évolue aussi. Alors, chez Gréco, vous avez aussi le noir et le blanc qui sont radicaux. Chez Gréco, vous avez quelque chose, par contre, vous avez des couleurs, c'est qu'on se rapproche, c'est des couleurs du vitrail, le bleu, le jaune et le rouge qui sont presque denses, et la verticalité qui est comme si Gréco retrouvait l'art gothique. Et là encore, vous avez vu, là, les éclaboussements de couleurs, de contrastes lumineux sont absolument prodigieux. Et puis, vous avez cette idée d'une violence de la révélation. La religion passe par une sorte de choc. C'est que vous avez le petit Jésus qui apparaît, là, ça éclabousse de couleur, c'est un tout petit truc de rien du tout, mais il fait se renverser complètement ces personnages qui sont en train de chuter. Et vous voyez, l'architecture, c'est presque rien. Comme si elle se défaisait. L'architecture, en fait, on est dans le siècle, c'est pas important. Là, avec Gréco, on est dans quelque chose qui doit être beaucoup plus profond dans l'air. D'ailleurs, dans Jésus, un des thèmes que Gréco regarde le plus, c'est la violence de Jésus. Jésus chassant les marchands du temple. C'est le moment de colère de Jésus, il s'apprête à fouetter, à chasser les marchands. Mais vous regardez l'architecture elle-même, on n'est pas loin des idériodomées, c'est des architectures presque fantomatiques, blanches comme ça, qui sont un peu vidées. On ne sait même pas ce qu'elles tiennent, on ne sait pas où on est. Des perspectives un peu bizarres, avec des personnages étranges, on ne sait pas ce qu'ils font. Des sortes de sculptures, là aussi, qui évoquent un passé, des vieilles idoles. Donc Gréco n'est pas du tout... étranger à la culture de Nommé et Barra. Alors, je vais maintenant vous montrer des peintres que je ne connaissais pas du tout, mais en cherchant sur, en fouillant un petit peu, j'ai vu certains artistes beaucoup solents. Allemands, ça vient surtout des cultures effectivement germaniques ou flamandes, hein, on est plutôt dans l'espace Europe du Nord et de l'Est. Donc des cultures qu'on connaît un petit peu moins, souvent on s'écarte du côté, on va dire, méditerranéen, de la lumière, de la Renaissance italienne. Et en fait, ce sont des artistes qui ont pu inspirer Barra et Nommé, puisque il y a des points communs, d'abord dans les sujets, dans les paysages un peu fantomatiques ou imaginés. Et voilà, alors là c'est de... Gilles von Königslow, alors C-O-N-I-N-X-L-2-O, Gilles de Königslow, je ne sais pas ce que ça veut dire Königslow, Königslow, le petit lapin, mais il ne bouge pas. Et là, vous avez des mythologies grecques, mais une sorte de paysage un peu imaginaire. Hein. Alors là, c'est un peu avant, hein. C'est un peu avant, donc c'est quelques dizaines d'années, c'est quelqu'un qui est né avant nommé Héba. Alors voilà encore Gilles von Königslow, avec le jugement de Paris. Mais vous avez des dispositifs qui sont relativement proches, des petits personnages au premier plan, sauf que là on est dans la nature, on n'est pas dans la sculpture architecturale.
C'est un peu avant les impressionnistes.
Ah bah, oui. Donc, c'est le style. Mais vous avez alors l'influence de Bruegel, de Patini sur les dégradés atmosphériques, etc. Mais on n'est pas quand même dans une description climatique, quand on est chez Bruegel, précise. Hein, on est dans quelque chose d'un petit peu imaginaire et fantastique, comme par exemple ici dans cet arbre fantastique, hein, cet arbre extraordinairement détaillé. Alors, c'est par contre au niveau de la représentation de l'espace un peu panoramique qu'il y a des points communs. Puis vous allez voir aussi qu'on va retrouver ça d'autres. Alors, ça c'était Königslow. Alors, Getty Images, parce que j'ai piqué ça là-dessus. Regardez par contre, donc c'est quelqu'un qui est antérieur à. Barra est nommé, c'est Peter Schubrock. Schubrocksel, pour se souvenir, c'est vrai, Schubrock. Peter Schubrock. Alors là, vous voyez, on est vraiment. En plus, le thème, c'est la ville de Troie. C'est l'incendie de Troie. Et vous voyez que finalement, les deux autres sont dans une continuité, parce que ça, c'est des artistes qui ont près 15 ou 20 ans de plus qu'eux. Hein. Nommé et Barra sont surtout actifs vers 1670-1680. Hein. Donc, et là, on voit que c'est des artistes un peu plus récents. Donc, Schubrock. Là, vous avez encore Schubrock, Sodome et Gomorre. Donc, vous voyez que ce sont en fait des thèmes, alors on est quand même en plein XVIIe siècle, c'est cohérent, que ça soit Troie ou Sodome et Gomorre, c'est des destructions de cités. Hein, et métaphoriquement, évidemment, c'est aussi les incendies et les crises, parce que Schubrock est précédent, Königslow, comme les autres, on est dans des régions aussi qui sont extrêmement troublées. En France, finalement, il y a la Saint-Barthélemy, mais très vite, les choses vont se réordonner. Et ce qui va dominer en France, ce n'est pas la tragédie comme ça, c'est le classicisme. Si on va trouver de l'ordre, hein, c'est Poussin, Lorrain, etc. Donc vous allez voir le territoire français va très vite reprendre les rênes, même par rapport aux guerres de religion. Hein, parce que la centralité du pouvoir va permettre d'ordonner cela. Mais dans les régions Germanie, Lorraine, justement, Hollande, etc., tous les pouvoirs locaux, le fait que ça soit plus décentralisé, pour que ça éclate beaucoup plus. Hein, ça éclate beaucoup plus, donc il y a toujours des violences entre eux. Et les cités ont de l'importance aussi. Les villes, donc cette idée des villes qui se détruisent, puisque c'est beaucoup plus les territoires de l'est de l'Europe, nord et est de l'Europe, c'est beaucoup plus au niveau de la. Il n'y a pas la centralité française, hein, c'est au contraire des régions, des duchés, des villes en Hollande. Donc l'idée d'une ville qui se détruit, des villes qui se détruisent, c'est aussi un peu plus clair, cette idée-là. Donc, mais incendie, brûlure, ah, par contre, il n'y a peut-être pas le génie lumineux des deux qui nous intéresse. Là, alors lui, c'est quelqu'un d'autre, ça, c'est toujours. Ah non, c'est toujours Schubrock. C'est toujours Schubrock. Donc là, par contre, on est dans quelque chose qui est un peu plus beau, mais il n'y a peut-être pas le blanc. Hein, on n'exploite peut-être pas suffisamment les ombres propres, les ombres portées, les différences.
C'est mais on est en. Parce que c'est la nuit.
Oui, mais quand on a vu avec. Les autres jouaient plus sur. Il y avait plus de modelés, de dégradés.
C'est saturé,
il y a plus de personnages. On est plus dans la narration ici, hein, avec Anchise, Aîné, etc. Alors, on peut voir Poussin. Là, on est dans quelque chose qui est beau, c'est alors, l'enlèvement de. Est-ce que c'est Perséphone? Junon et Poséidon. Donc voilà, après tout, ça peut être n'importe quel enlèvement. Hein. Alors là, il y a quelque chose qui est intéressant, toujours. Donc c'est très proche, architecture qui se défaut. Hein. Donc, alors il y en a plusieurs, hein, des artistes comme ça. Lui, par exemple, ah ben c'est toujours Schubrock. Là, alors là, il est dans un paradoxe intéressant qu'on va trouver chez. C'est la question du dessin et de la lumière. Parce que c'est très difficile de faire une multitude de petits personnages et précis dans le dessin et en même temps de multiplier les jeux de couleurs et de etc. Parce que si vous êtes plein de petits personnages, il faudrait qu'ils aient chacun leur individualité de couleur et de lumière. Et donc là, on a presque l'impression qu'il abandonne la peinture pour ne faire que dessiner des gens sur des fonds sombres avec quelques touches de couleur. C'est un paradoxe qu'on retrouvera chez Gustave Moreau plus tard. Deux siècles plus tard, Gustave Moreau, il est fasciné par le dessin précis et en même temps par les couleurs, les lumières, les matières. Alors, le mariage des deux, on l'avait vu il y a quelques années, le mariage des deux est presque schizophrénique. Et là, on a presque cette idée-là. On ne sait pas s'il privait parfois les grands effets de mode des dégradés et comment introduire les groupes de personnages là-dedans. Alors, je dis ça parce qu'en fait, c'est un problème qui est posé théoriquement au XVIIe siècle, avec la métaphore de la grappe de raisin. Comment peindre une grappe de raisin? Parce que chaque petite sphère a son autonomie, mais elle fait partie quand même d'un ensemble. Donc la grappe, elle a sa propre ombre globale, si on prend un volume global. En même temps, chaque petite sphère a son propre reflet, sa propre ombre et son ombre portée. Et sa propre transparence. Donc cette idée de peindre un volume complexe fait de plusieurs micro-volumes, c'est valable pour une grappe de raisin, mais c'est valable pour une foule. Donc c'est des choses qu'on trouve pile au XVIIe siècle en France. C'est le paradigme de la grappe de raisin qui est écrit texto par François Lebrun, qui est un grand peintre classique français, etc. Et que Poussin, justement, va reprendre. Nicolas Poussin réussit justement à faire des scènes de groupe comme ça, avec des sujets qui sont proches, l'enlèvement des Sabines, la main dans le désert, etc.
Excellent, mais on a la juxtapposition de vers le haut,
oui,
deux espaces complètement différents.
Totalement différents, effectivement.
Quelle logique entre...
Oui, non. Alors, soit ils sont sur une colline, mais même pas de logique de lumière, on ne sait pas si ce sont des gouffres, si ce sont des nuages, si ce sont des nuées, etc. Alors, c'est assez marrant, parce que vous parlez du film sur Turner, là, Turner sera confronté au même problème. La peinture, les lumières, le détail, Turner, c'est aussi quelqu'un qui embrase des trucs, des incendies, l'incendie de Londres, etc., les embrasements, et puis en même temps, c'est un très grand graveur et dessinateur très précis. Donc, en fait, vous avez... l'intérêt aussi de cette période-là, c'est les artistes qui se libèrent aussi, puisqu'il n'y a plus tellement de normes, ni au niveau religieux, ni au niveau de la peinture, ni au niveau esthétique. Il y a une diversité des commandes. On avait vu ça avec le maniérisme, donc vous avez des artistes qui explorent aussi. Et ça, c'est pas mal, parce que justement, et ces explorations sont purement picturales. Alors ça c'est... Alors là, leur nom, Swanenburg. Jacob Isaac de Swanenburg. Et en fait, on retrouve... après la chose. Donc en fait, c'est clair que c'est un genre. C'est un genre, peinture imaginaire, peinture d'incendie, peinture de catastrophe, et que finalement nommer Marat des Idériaux sont dans cette tradition. Et ensuite, ce qui est marrant, c'est que c'est surtout eux qu'on connaît, alors que ce sont les derniers dans cette série. Donc pourquoi par contre ce sont eux qui sont les plus connus? Je ne sais pas, alors là vous avez des espèces de gueules ouvertes fantastiques, alors là on retrouve les trucs avec les nez en contre-plongée, les oreilles et une bouche ouverte des enfers, hein, et nez en schiste, alors là il faut les trouver, grouillement, saturation, incendie, architecture, pont, fragilité, chute, etc., etc. Là, toujours Swanenburg, les feux, pas de sujet, autre, je ne sais pas, je vais un peu plus vite parce que ça là c'est ce qu'on a vu du moment du... mais c'est une autre peinture. Celui-là, chute de Troie, de toujours Swanenburg. Toujours aîné en schiste au premier plan, les plus rouges. Celle-ci, alors, je ne sais pas de qui elle est celle-ci. Il n'y a pas de nom. C'est toujours l'enfer, porte de l'enfer. Là, alors lui, il s'appelle Alzheimer. Alzheimer et Adam. Son prénom, c'est Adam. Donc, mais celui-ci est un peu plus classique dans la question du maniérisme, vous voyez, mais il combine quelque chose qui fait penser à un maniérisme italien au premier plan, et là quelque chose d'un peu fantastique.
Tout ça, c'était des œuvres de commande, en fait.
Alors, sans doute, ça c'est le début. Ce sont des commandes, mais comme on le voit très clairement au XVIIe siècle, c'est des commandes, ça fait des commandes de milieu privé. La commande de milieu privé, surtout dans ces pays-là, c'est plus important qu'en France. Parce qu'il y a plus de richesses partagées, que ce soit Hollande, Pays de l'Est, etc. C'est ce que j'ai les cités, les marchands, les commerçants, etc., les princes locaux. Et puis vous avez aussi, avec les crises religieuses, plus qu'en France, vous aviez des sortes de confréries. Donc déjà Jérôme Bosch, faisait partie d'une confrérie hein, de, avec une vision un petit peu, une transcription de la religion qui était un peu particulière. Donc Peter Bruegel, c'est aussi des sortes de... Ce n'est pas des commandes, mais c'est des accords. Il est une bande d'amis, hein, enfin, chercheurs, de penseurs, de philosophes. Et donc, c'était des peintures qui étaient faites pour un petit cercle, en fait. Dans un cercle. C'est, alors qu'on est habitué avec la France et l'Italie à des commandes soit royales, soit religieuses. Il faut attendre très longtemps en France à avoir vraiment des commandes privées, hein, des commandes singulières. Mais Hollande, Pays-Bas, Pays-Bas. Pays germanophones, etc., c'est plus diversifié, y compris pour des questions économiques et aussi religieuses. Il y a un éclatement, le pouvoir n'est pas centré. Donc ça peut être aussi des sortes de, pas des sectes, mais des sortes de petits clubs qui ont un peu une vision des communautés qui expriment et qui recommandent à un peintre, un riche marchand qui est un peu éclairé, il discute avec sa peintre et il se chauffe la tête, on peut imaginer, puis tiens, je t'achète une peinture, tu me fais une chute de trois, etc. Donc on peut imaginer que c'est comme ça. Mais c'est pas pour être dans des églises, c'est pas non plus rarement dans des palais. Là vous avez encore une chute de trois. Là est-ce que c'est toujours Alzheimer? Oui c'est lui. Pour Alzheimer on a déjà vu. Alors pour changer, puis pour terminer, vous avez le contemporain totalement opposé. C'est Peter Sandreda. Puis je vais terminer avec ça. Peter Sandreda. S-A-N-R-E-D-R-M. Peter Sandreda, c'est exactement le contemporain de nommé Desiderio Barra, etc. Et vous voyez bien qu'il y a aussi cette fois-ci des églises totalement vidées, mais en même temps totalement pures, calmes, sereines. Là, on est dans quelque chose. Et bizarrement, c'est la voûte qui est sombre. Hein, et alors là, le sol, au contraire, est rassurant. On a envie de se promener, il y a le calme, il n'y a pas d'incendie, une belle lumière du jour. Et le dépouillement de l'église proposé par les protestants permet de profiter beaucoup plus de la lumière, sculpter une lumière douce, une lumière âme qui vient se répartir comme ça, et en même temps révéler la beauté de l'édifice. Comme si finalement les églises catholiques étaient saturées, gâchées, hein, leur propre sujet, leur propre origine. Alors Peter Sandreda, il peint les églises dépouillées réellement, alors lui il peint des vraies églises. Hein. Et il va essayer, alors c'est bizarre parce que, au moment où on vide les églises de leur peinture, on y va peindre des églises vides de leur peinture. Il y a aussi quelque chose qui est un peu drôle, mais c'est l'occasion de mettre en scène les surfaces, les volumes avec un minimalisme. Là, on se rapproche un petit peu de Vermeer. À nouveau, de lumière, du vide, du repos. Au lieu de forcer dans l'imaginaire, on accepte le vide. Hein, au lieu d'en avoir peur, hein, eh bien, au contraire, on accepte cette espèce de... Et là, les corps que vous voyez sont des corps qui ne sont pas dans l'agitation, mais dans la fuite. Le sol est parfaitement ordonné, mais un petit chien très calme. Alors, Sandreda, c'est quelqu'un qui est un peu redécouvert progressivement, hein, qui, là aussi, ses œuvres sont un peu étalées partout, parce que c'est un paradoxe aussi, hein, quelqu'un qui peint les églises au moment où on les a vidées de leur peinture. Il y en a d'autres, alors, à chaque fois, il y a des cadrages stupéfiants. Hein, on voit aussi qu'il y a un choix vraiment pour être dans le lieu, à des endroits où, justement, le plan et le volume vont être traités, vous avez des surfaces, il n'y a pas du tout d'extérieur, et au contraire, un vide total, parce que c'est jamais pendant les cérémonies, c'est avant, après, on profite. Alors il y a la solitude, mais on n'est plus dans l'inquiétude, on est dans une harmonie, et regardez même le petit personnage qui est en haut. Alors, j'ai un ami, un ancien professeur du lycée, ben, Marie-Anne Marcolette, c'est son dada, et il a un livre qui devrait sortir sur Sandreda. Et on pense d'ailleurs aussi que les personnages que l'on voit ont été rajoutés par la suite, parce qu'au début, ces églises étaient entièrement vides. Et c'est la chose, c'est des commanditaires, etc. On dit, oh, quand même, il faut faire quelque chose, il faut mettre quelques petits personnages. Donc les petits personnages sont souvent rajoutés. Alors, notre ami Marc, là, il a des théories un peu complexes. Il relie ça à une mystique réno-flamande. Donc, c'est lié à une religion, une vision de la religion typique de cette région aussi, et je le laisse le développer. Et là, vous voyez ce que je vous disais sur la surface, le plan aussi. Hein. Mais c'est intéressant de comparer les deux. Hein. Barra ou Sandreda, vous pourrez les rapprocher, hein, les structures frontales. Et l'idée quand même du bâtiment, de l'architecture, de qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce qu'on peut y faire, comment est-ce que ça peut nous amener au-delà, hein, nous rassurer ou nous inquiéter. C'est assez clair. Là, on est vraiment dans des peintures d'un modernisme remarquable. Et Je vais terminer encore une fois. C'est contemporain. Si les plats ne font pas baroque, italien. Alors là, on est dans autre chose. Mais là, je vous les montre. Alors là, 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 là. Alors si on est dans une sorte de délire, alors vers le ciel. C'est-à-dire quelque part, on quitte le sol, on quitte la terre et on s'envole. Et le corps se dilate dans l'espace, dans une sorte de ravissement au sens strict. Le corps est emporté. Hein, ce qui est typique de tous les plafonds peints baroques, on trouve ça quasiment que en Italie. Là, c'est vraiment l'art de la contre-réforme. Pour faire simple, le concile de Trente, en Italie, a duré très longtemps, et ensuite a établi des règles, et en gros a dit, bah, les protestants, ils nous embêtent, ils sont austères, ils sont pas rigolos, ils pensent que, alors que pour nous, rien n'est trop beau pour Dieu, il n'y a pas de limite, au contraire, tout ce qu'on peut faire de plus beau, c'est de donner des morceaux de bravoure, l'or, etc. Et Dieu est amour, Dieu est sentiment, Dieu est émotion, donc Dieu n'est pas austère. Donc il faut y aller à fond dans cette espèce d'exubérance religieuse. Et il y a aussi une idée spatiale là-dedans qui est très claire, c'est puisque si l'univers est infini, est ouvert, c'est que Dieu l'a bien voulu, et donc c'est Dieu cet infini. Donc pour comprendre Dieu, mais il faut se perdre dans l'infini. Il faut capter le vide. Pour capter le vide, il y a deux solutions, il y a trois solutions. Il y a la lumière qui remplit tout l'espace, il y a le souffle qui remplit l'espace, et vous avez aussi l'agitation. Et alors ça va se traduire par des choses qui vont se gonfler, se dilater. Les drapés, les nuages et la lumière. Donc le corps est traversé par l'action, par la lumière, par l'air. Et donc vous avez des nuages, et l'architecture qui est enfermée un petit peu trop, qui établissait un dialogue trop dualiste, eh bien l'architecture, paf, il faut qu'elle éclate complètement. Dans l'architecture baroque, elle éclate de l'intérieur, et elle se boursouche aussi. C'est-à-dire qu'elle perd ses frontières, parce que les frontières, c'est ce qui enferme. Donc le baroque, c'est la dilatation. La dilatation de tout. Et là, d'ailleurs, on ne sait plus où on est. Là, il y a des vraies fenêtres, mais où s'arrête et où commence le vrai plafond, on est dans le trompe-l'œil aussi, on est perdu par l'essence. Alors je reviendrai un petit peu plus précisément là-dessus, puisque là, je n'ai pas tout à fait le temps, mais et puis je terminerai avec Laurin, puisque voilà. Donc, normalement la prochaine fois, on doit faire ça. Ah puis j'ai encore d'autres trucs autour. Et puis, on devrait entamer. Ah ben l'architecture, je te vois. Bon. Donc c'était lié en fait la question de l'architecture baroque, on l'aborde dans le prochain sujet. Donc en fait c'est normal que je vous parle de ça. En fait c'était prévu, mais j'ai
oublié. C'est intéressant, c'est les.
Ah bah oui, ça c'est. Donc c'est le vendredi. Oui.
Le 9
novembre. Voilà. Eh bien, bonnes vacances de printemps.
Si, de printemps.
Puisqu'on y est quasiment.
Ah ben, ça va jamais être une idée.